bien, bonjour à tous et merci de nous retrouver en cette matinée. Alors, aujourd'hui, nous allons laisser le soleil derrière nous. Nous allons descendre, en effet, une découverte plutôt insolite. On va découvrir Paris et le Paris invisible. Nous allons aller dans les sous-sols. Mon invité ce matin, et merci d'être avec moi ce matin, Gilles Thomas. Alors, vous êtes spécialiste et consultant des sous-sols parisiens. Il y a longtemps, a priori, vous avez fait de la bio. Donc, c'est un truc que vous allez laisser un petit peu derrière vous. Consultant, par exemple, quand on parle des sous-sols, le petit clin d'œil que vous m'aviez dit au téléphone la première fois que je vous ai eu, c'était que vous étiez au générique de Ratatouille, cette histoire de rat qui se passe justement en grande partie dans les sous-sols, vous en direz peut-être un petit mot tout à l'heure, et auteur d'un bouquin, si vous aimez justement le Paris souterrain, l'Atlas du Paris souterrain, justement aux éditions Parigramme, avec un co-auteur Alain Clément qui malheureusement est décédé, et vous évidemment Gilles Thomas, un bouquin plutôt bien complet. Alors merci d'être là aujourd'hui ce matin avec moi.
Et merci et bonjour à tout le monde.
Voilà, alors souvent on fait la petite blague, Paris est un gruyère. La première chose que vous avez dit, non, Paris n'est pas un gruyère, c'est au pire un emmental, mais c'est tout. Hein.
Oui, on peut choisir ce qu'on veut comme image, on peut choisir une éponge, mais surtout pas un gruyère, parce qu'un gruyère est un fromage sans trou, ouais. Et au contraire, Paris, il y a de multiples galeries qui superposent, qui s'évitent, qui existent dans son sous-sol.
Alors, les gens, quand on leur dit on va descendre finalement dans les sous-sols parisiens, sont un peu, oula, avec que se passe-t-il? Alors on sait qu'il y a les catacombes, on sait que évidemment le métro, les égouts, il y a beaucoup de choses. Alors peut-être on va commencer par le B.A.B.A. Si quelqu'un qui ne connaît pas Paris vient vous voir en disant mais qu'est-ce qu'il y a dans cette capitale, qu'est-ce qu'il se passe en dessous, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire?
Ben, en dessous, il y a deux types de galeries. Il y a des galeries que je qualifierais d'historiques, qui font que Paris est devenue la ville que l'on connaît maintenant. C'est-à-dire que pour construire une ville, il faut de la pierre, il faut de l'eau, qui est nécessaire à la vie. Et dans les galeries historiques, il y a des aqueducs. Aqueducs qui peuvent dater du 12e, 13e siècle, mais qui, eux, sont limités au niveau rive droite sur les buttes du côté du Pré-Saint-Gervais. Et y a un aqueduc qui a été construit au XVIIe siècle, qui vient de Rungis, donc plutôt la banlieue sud, et qui vient alimenter, qui venait alimenter, on va dire, le 14e arrondissement, mais ça c'est en exagérant. Comme autre galerie historique, il y a les anciennes carrières souterraines, d'où a été extrait la pierre qui a permis de construire Paris. Donc ça, ce sont les deux principales galeries historiques. Et après, il y a les galeries techniques qui font que la ville aujourd'hui est une ville, je dirais, qui vit, qui est moderne et qui s'adapte en fait à la population, à la circulation dans ces galeries techniques. C'est le métro, ce sont les égouts, ce sont des galeries techniques d'EDF. Ce sont des galeries pour la communication, des galeries de France Télécom, des galeries de chauffage urbain. Donc il y a une foultitude de galeries en dessous.
Alors d'abord, quand vous parlez des galeries et des sous-sols historiques, alors je sais pas, j'ai envie de vous dire, mais quelle idée de construire des aqueducs en souterrain? Et quand Paris a commencé à se construire, pourquoi on n'avait pas allé chercher la pierre un peu plus loin? Comment on peut imaginer une carrière en sous-sol sans que tout se casse la gueule, si je puis me permettre l'expression?
Alors les aqueducs, on les a construits en fait tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés en souterrain parce que on s'est toujours arrangé pour les construire et de faire venir l'eau uniquement par gravité. Donc arrivés dans Paris, ils sont en fait sous le niveau des rues, puisqu'ils sont un peu au-dessus du niveau des rues, on va dire, à l'extérieur de Paris. Et pareil pour la pierre, en fait, à l'origine, la pierre était extraite dans les faubourgs de Paris. Et Paris ayant trouvé dans ses sous-sols immédiats des matériaux qui ont permis à la ville de se construire en dur, donc on va dire du calcaire sous principalement la rive gauche, et du plâtre qui se présente sous la forme de gypse sous principalement la rive droite, Paris a trouvé ces deux matériaux qui ont permis de se construire en dur, et Paris s'est agrandi. Donc au départ, les carrières étaient à ciel ouvert, et puis on a fini par les creuser en souterrain à partir du 12e, 13e siècle, et la ville, en grandissant, est venue se construire au-dessus de ces vides, parce qu'on avait oublié qu'il y avait ces vides auparavant.
On peut quand même imaginer qu'au 12e siècle, travailler dans une carrière en souterrain, ça devait être une sacrée histoire quand même. J'ai envie de vous poser une question juste comme ça, par curiosité. Est-ce qu'il y a des trésors géologiques, justement, je sais pas, des minerais incroyables, ou Paris ça reste du calcaire et pas grand chose d'autre finalement?
Ça reste, on va dire, du calcaire et du gypse et pas grand chose d'autre. On a essayé de regarder si effectivement il y avait du pétrole, mais non, c'est pas des choses que... On a eu un petit forage de pétrole du côté d'Ivry, mais c'est pas des choses que l'on exploite sont pas des richesses minérales que l'on exploite.
Aujourd'hui, c'est pas franchement exploitable. Peut-être les idées reçues quand on vous parle des sous-sols parisiens, les choses qui sont insupportables au regard d'un spécialiste comme vous, non, c'est pas ça, quoi. Les choses les plus invraisemblables qu'on vous ait dit sur les sous-sols.
Non, c'est pas des choses les plus invraisemblables. C'est qu'il y a souvent confusion entre égout, carrière, catacombe.
Ouais.
Catacombe, c'est un mot général qui normalement devrait être limité à l'ossuaire municipal qui existe place d'Enfer Rochereau et qui en fait ce nom a été étendu à l'ensemble des carrières sous Paris.
Ouais.
Mais donc les carrières catacombes, c'est la partie historique, je dirais, du sous-sol. Les égouts, c'est la partie technique. Mais moi, il m'est arrivé de lire comme titre d'article, c'est dans les égouts de la capitale qu'ont lieu les dîners en ville. En fait, la personne voulait parler des carrières catacombes.
Ouais.
Donc, ça se comprend un peu parce que lorsque l'on regarde le trottoir, les accès pour pénétrer dans le sous-sol ont pratiquement tous la même forme. Ça ressemble à des plaques d'égout.
Ouais.
Et des plaques d'égout qui ont le même diamètre, sauf, bon, si on est spécialiste, on va identifier tout de suite si c'est une plaque pour rentrer dans le réseau d'égout, pour rentrer dans le réseau EDF. Elles sont clairement identifiées.
Ah, est-ce qu'ils ont raison quand même de dire attention, les souterrains, les petits endroits? Voilà. Il y a les égouts qu'on peut visiter, qui se trouvent Pont de l'Alma, si mon souvenir est bon. Il y a des catacombes. Alors, vous parlez de l'ossuaire à d'Enfer Rochereau. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut visiter, là, qui sont ouvertes au grand public? Évidemment, on va parler aussi des choses qui sont absolument pas ouvertes au grand public et qui, évidemment, il est déconseillé de faire. Hein.
Non, dans les seules parties, je dirais, de carrière qui sont visitables, moyennant un droit d'entrée, c'est effectivement les catacombes place d'Enfer Rochereau. Sauf que depuis quelques années, il y a une association qui est sous l'hôpital Cochin, qui a signé une convention avec la ville de Paris. Et de par l'intérêt historique des sous-sols, la ville a demandé à cette association de faire visiter éventuellement une fois par mois ce réseau de carrières.
Ouais.
Donc il faut aller voir sur Internet et rechercher carrière sous l'hôpital Cochin, on tombe sur l'association.
Donc pour résumer, en dehors finalement des réseaux techniques sous nos pieds, pour nous les Parisiens, il y a donc les réseaux historiques, donc les carrières, et puis juste l'ossuaire. C'est tout, finalement.
Et la petite partie d'égout. Mais la petite partie d'égout a, je dirais, un intérêt. Ce n'est pas un musée. C'est vraiment une partie d'égout qui fonctionne,
ouais.
Qui est ouverte au public, qui est aménagée pour le public, mais qui doit être fermée, je dirais, deux fois deux semaines dans l'année pour l'entretien, parce que c'est vraiment une partie d'égout fonctionnelle. C'est pas un musée.
Ça fonctionne réellement. Très bien. Alors, évidemment, on va revenir sur les égouts, les catacombes. Moi, la première chose que j'ai envie de vous demander, après tout ce que vous venez de nous dire, c'est prouesse technique ou un grand bazar, finalement, ce sous-sol parisien? Peut-être aujourd'hui ça reste une espèce de micmac de tuyaux, de fils, etc. Ou quand même quand on regarde de près, c'est quand même incroyable ce qu'on a réussi à faire. Et en plus on peut penser au métro, on se demande comment ils arrivent à trouver un passage pour faire des tunnels quand même conséquents. Hein.
Je vais répondre les deux. Au départ c'était un micmac auquel on n'avait pas pensé. C'est-à-dire quand on avait uniquement que des carrières, on ne savait pas où... Enfin, on avait exploité les carrières, mais quelques siècles après, on ne savait plus où elles étaient,
ouais.
Parce que la législation française est très claire. L'article 552 du Code civil dit que si on est propriétaire du sol, on est propriétaire du sous-sol jusqu'au centre de la terre. Donc ça, c'est une surprise.
Très ravi, très
c'est
bien.
Une surprise pour tout le monde.
Ouais.
Sachant que si on trouve du calcaire ou du gypse ou un matériau qu'on peut exploiter sous chez soi, on peut l'exploiter.
Ouais.
Mais si on achète une maison et qu'en dessous c'est creux, c'est à nous de payer pour consolider. Donc ça, on a les avantages,
ouais,
et les inconvénients.
Je la pose pas maintenant pour l'instant parce que la question est un petit peu catastrophique. Pour le coup, la ville de Paris, elle appartient pas franchement aux gens qui ont les appartements. Donc tout ça appartient à l'État aujourd'hui. L'État, non ?
Non. La ville de Paris est bien sûr propriétaire de ses rues.
Ouais.
Et la majorité des galeries de carrière circulent à l'aplomb des rues. Donc comme les égouts, comme le métro. En fait, le métro...
La mairie de Paris est responsable de ça.
Est responsable de ça, bien évidemment. Et pour finir de répondre sur... Au départ, c'était un micmac. Et ça a été quand même une prouesse technique.
Ouais.
Parce que, par exemple, quand on a construit le métro, les égouts étaient déjà installés. Il a fallu détourner des réseaux, des parties d'égout,
ouais,
pour faire passer le métro. Et plus on veut construire quelque chose en souterrain, plus on est encombré par du vide. Donc il faut s'adapter au vide, et là c'est une prouesse technique permanente. Quoi.
Alors là c'est vrai que la ligne 14, je crois qu'il y a une des lignes qui a été faite le plus récemment, c'était des travaux incroyables. J'ai envie de poser une autre question quand on parle des sous-sols de Paris. Est-ce que tout a été fouillé, et est-ce qu'il reste des endroits vierges?
Il y a des endroits vierges où il n'y a pas encore de galeries souterraines. Oui, il en existe. Est-ce que tout a été fouillé? Ça, c'était le rôle de l'inspection générale des carrières qui a,
ouais,
été créée en 1777, de rechercher en fait tous les vides qu'il pouvait y avoir sous Paris, parce qu'on avait oublié où étaient ces vides,
ouais,
d'en dresser la cartographie. Et si en fait on en a dressé la cartographie, ça a été pour consolider à l'époque tout ce qui était sous les voies publiques et les bâtiments du roi.
Ouais.
Donc c'est le principe en fait du pêcheur qui veut attraper des poissons dans un étang. Au départ, c'est à chaque fois qu'il va planter sa gaule, il va avoir un poisson. À la fin, c'est de plus en plus dur à trouver le dernier poisson, sauf que le dernier poisson, au bout d'un temps, on sait qu'il n'y en aura plus parce que le dernier vivant va mourir. Alors que pour les carrières, de temps en temps, il y a un petit trou qui réapparaît en surface, ouais. qui est un petit morceau de carrière qu'on a pu oublier, mais on ne risque plus les grands effondrements comme il y a eu à la fin du 18e siècle.
Alors Paris peut-il s'effondrer ? Non. Par contre, c'est arrivé. Là, vous me surprenez.
C'est arrivé à la fin du 18e siècle, en 1773, 1774, 1776. Il y a eu des gigantesques effondrements, mais c'était des rues entières qui s'écroulaient. C'était du côté de la place d'Enfer aux Chaux, mais à chaque fois plusieurs pavillons qui s'écroulaient. Et le dernier gros effondrement ouais. qu'on a eu dans la région parisienne, ça a été en 1961 à Clamart. 1961, c'est quand même pas si loin. Clamart, c'est à côté. Pour les non-parisiens, c'est juste à côté de Paris. Ouais. Et en 1961, on a eu un effondrement monstrueux. Vu d'avion, les photos aériennes qu'on peut encore consulter de nos jours, on a l'impression qu'il y a eu un tremblement de terre.
Ah oui.
Et il y a eu 21 morts. Il n'y a eu que 21 morts parce que la chance, c'est que dans la zone d'effondrement, il y avait tout le stade d'Issy-les-Moulineaux, qui par définition n'est pas une zone construite. Ouais. Mais ça aurait été une zone plus urbanisée, c'était catastrophique. Mais déjà 21 morts, c'est catastrophique.
Non, c'est beaucoup. Et c'était il n'y a pas si longtemps, en effet. Donc, on peut se rassurer. Aujourd'hui, en 2010, a priori, Paris ne peut plus s'effondrer.
Paris ne peut plus s'effondrer puisque les services techniques qui circulent dans les galeries, en fait, dès qu'ils voient une petite modification dans l'aspect de la galerie par rapport à d'habitude, et ben ils vont la surveiller encore plus pour s'assurer qu'il n'y a pas d'évolution négative.
Alors on parlera peut-être encore des prouesses techniques quand on parlera du métro. Là, une autre question quand même, qui s'intéresse au sous-sol parisien ? Les touristes ? Vous parliez au téléphone quand on s'est eu la première fois justement de gens qui font des films. Alors qui s'intéresse encore aujourd'hui au sous-sol, à part peut-être les grands constructeurs qui veulent s'assurer que leurs immeubles ne vont pas s'effondrer ?
Qui s'y intéresse, il y a effectivement énormément de touristes déjà, parce qu'il faut savoir que les catacombes, donc Place d'Enfer aux Chaux, c'est un musée de la ville de Paris,
ouais.
c'est un des 15 musées de la ville de Paris, donc jusqu'à la mise en gratuité des collections permanentes des musées qui datent de 2001, c'était le musée qui recevait le plus de visiteurs
Incroyable.
Des musées de la ville ouais. de Paris, c'est-à-dire plus de 200 000 visiteurs.
Ouais.
Donc bien sûr, dans les musées à Paris, il y a toutes sortes de musées, il y a des musées privés, associatifs, des musées nationaux, je parle des musées ville de Paris, et bien les catacombes finançaient le musée d'art moderne. Parce que quand vous avez un musée, en fait, avec des peintures...
C'est les amateurs d'art moderne.
Il faut que vous entreteniez vos collections, vous achetez sans arrêt des choses, alors que pour les catacombes, en fait, l'investissement, c'est le 18e siècle.
Ouais.
On a transposé dedans des ossements, et en gros, depuis, il n'y avait aucun investissement.
Qu'est-ce qu'il y a, justement, à l'intérieur de ces catacombes, puisqu'on en parle, autant s'arrêter un petit peu. Faisons un premier voyage là, dans Ferrochereau, on peut aller visiter, et qu'est-ce qu'on visite ?
Qu'est-ce qu'on visite en fait ? Malheureusement, c'est je veux dire un train fantôme, c'est-à-dire c'est présenté comme ça pour le public. Le public vient pour circuler au milieu d'ossements, sachant que c'est le développé, le linéaire en fait représente on va dire 1,5 km,
ouais.
mais les 500 premiers mètres c'est la galerie d'approche entre l'escalier d'accès et l'ossuaire à proprement parler. Ensuite, il y a un petit labyrinthe que l'on parcourt au milieu d'ossements pendant 500 mètres. Et après, il y a la galerie de sortie qui dure 500 mètres. Mais on circule au milieu d'ossements qui ont été donc entreposés à partir de 1786.
Ouais.
Et jusqu'en 1814, on a vidé les cimetières parisiens et on a entreposé ça dans ces catacombes qui, à l'époque, étaient à l'extérieur de Paris.
Donc, en fait, c'est pas des gens qui ont été enterrés là, c'est des trucs qui ont été rapportés et rangés, d'une certaine manière.
Oui, et le mot catacombe, ouais. par contre, a été pris par analogie avec les catacombes de Rome, mais là, c'est juste un transport d'ossements pour des raisons de salubrité publique.
Ouais.
Parce qu'on avait des problèmes dans Paris.
Ranger les ossements, ouais.
C'était pas uniquement ranger les ossements, certains cimetières étaient saturés, par exemple, le cimetière des Innocents, qui servait de cimetière depuis l'origine de Paris.
Ouais.
On estime que son sol était exhaussé de 2,50 m par rapport au niveau des rues. Parce que bien évidemment, vous faites un trou, vous mettez un caillou, vous mettez de la terre, il y a une petite bosse.
Ouais.
Et là, on a enterré des corps et des corps les uns sur les autres. Donc
Incroyable.
On a fini
ouais.
par exaucer le cimetière. Et pour des raisons de salubrité publique, quand il pleuvait, l'eau traverse le cimetière et va alimenter les nappes phréatiques. Et que fait le Parisien à l'époque ? Il puise dans des puits l'eau qu'il va consommer.
Ouais.
Donc c'était pas l'idéal.
Non.
Donc là, on
peut comprendre pourquoi on a entreposé tous ces ossements. Alors évidemment, ça doit être un petit peu morbide. Juste avant l'émission, vous nous dites justement, les gens ont une curiosité morbide envers les sous-sols parisiens. Pourquoi ? C'est vrai que c'est un petit peu... On se demande s'il n'y a pas des histoires de fantômes ou des histoires qui... Voilà, il y a peut-être des choses à dire là-dessus.
C'est morbide, je dirais pas morbide. C'est une curiosité qui est plus ou moins malsaine, je dirais, mais pas morbide. En fait, quand on visite les catacombes, le décor est romantico-macabre. C'est très particulier, mais parce que...
C'est bon pour les clips de Marianne, ça, quoi.
Oui, c'est très particulier parce que lorsque les catacombes ont été ouvertes au public en 1809,
ouais.
La mode était au romantique et il y avait des déclamations de poésie romantico-macabre et donc ça ne choquait personne de toute façon de voir par exemple le long des parois d'ossements un cœur créé uniquement avec des crânes, c'était absolument pas étonnant pour les personnes, parce qu'on vivait, les vivants vivaient au milieu des morts. En fait, ils allaient au cimetière des saints innocents. Il y avait des écrivains publics dans le cimetière des saints innocents. Il y avait, on pouvait rencontrer des vendeuses de fleurs. Il y avait la vie et la mort étaient mêlées.
Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus forcément le même rapport avec la mort. Alors, qu'est-ce que, je sais pas, vous avez sûrement vu des gens qui ressortaient de ce musée, qu'est-ce qu'ils vous disent, c'est fantastique? Est-ce qu'il y a d'autres ossements? Est-ce que c'est très spécifique à cet endroit? Quand on voit les photos, alors évidemment, on est en radio, vous pouvez pas voir, il y a des ossements, mais dans tous les sens. En plus, on range des crânes avec des bouts d'os. Enfin, c'est très très étrange. Est-ce que là, c'est très spécifique à cet endroit sous Paris? Ou est-ce que justement, au travers de vos visites des sous-sols parisiens, vous avez vu aussi d'autres endroits, finalement d'autres ossuaires, mais là, fermés au public?
Oui, bien évidemment, il y a d'autres ossuaires, puisque ces catacombes, on les a agrandies un tout petit peu en 1859-1860 pendant les percées haussmanniennes, donc les percées du baron préfet Haussmann, mais si on prononce à la française Haussmann.
Donc, c'est vrai, on va dire Haussmann alors.
On va dire Haussmann, et on a considéré que cet ossuaire était saturé, on n'allait pas l'agrandir plus après 1860. Et en fait, on a eu d'autres, je dirais, d'autres épidémies, d'autres grosses arrivées massives de morts. Et à ce moment-là, ben, on a vidé des fosses communes, par exemple, du cimetière Montparnasse, ben, en dessous, ce qui était logique, parce qu'en dessous, on a des carrières. Ah oui. Donc, on les a vidées, et là, on les a pas rangées, puisque c'est pas fait pour être vu par le public.
Donc, là, c'est pas rangé, c'est juste mis.
C'est juste, ben, on vide, comme avait été vidé les ossements dans les catacombes, à partir d'un puits, on ouvre un puits, on laisse tomber les ossements dedans, et puis, à la limite, en bas, quelqu'un avec une brouette va les mettre dans les coins.
Ouais. Alors on va se retrouver dans un instant pour continuer cette visite des sous-sols de Paris. Alors là on était peut-être dans le côté macabre, évidemment il n'y a pas que des choses macabres ou tristes. On va quand même parler des tombes, parce que on voit que dans certaines autres villes où quand on va en sous-sol on s'attend à croiser justement des histoires peut-être de fantômes. Là on voit qu'ils n'ont pas été là à l'origine, alors est-ce qu'on peut trouver des tombes de gens célèbres à travers l'histoire? On va évidemment parler... Alors, ce ne sera pas des catacombes, vous l'avez dit, hein, ce sont plutôt des carrières, des égouts. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Vous restez avec nous. Je voudrais juste rappeler ce livre, quand même, Atlas du sous-sol, Atlas du Paris souterrain, de vous et d'Alain Clément. Alors, Gilles Thomas et Alain Clément aux éditions Paris Gramme. Vous restez avec nous. Sur la route, le Paris invisible, les sous-sols de Paris. Voilà, deuxième partie de cette émission avec vous, Gilles Thomas, donc consultant et spécialiste des sous-sols parisiens, ce livre, hein, Atlas du Paris souterrain. Alors ça s'est sorti il y a longtemps, est-ce qu'on pourrait imaginer une nouvelle édition où il n'y a pas grand-chose qui a changé finalement?
Non, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais on pourrait envisager une nouvelle édition, parce qu'on peut présenter les choses de façon totalement différente. Ouais. Et bon, il y a de temps en temps, heureusement, des petites découvertes historiques qui sont intéressantes, par exemple je dirais mystères, souterrains que l'on connaît quand on s'intéresse à l'histoire, tels que par exemple une tombe qu'il y avait sous Paris, on ne savait pas grand chose sur cette tombe, et ça y est, le mystère était élevé depuis le 21 janvier de cette année.
Alors, dites-le, il faut nous le dire, là, le suspense était intense. Alors justement, en plus, on parlait des ossuaires où là, on avait entreposé les os pour les ranger parce qu'on avait besoin de place. Là, on parle clairement de gens qui ont été enterrés dans les sous-sols de Paris. Alors, on va sûrement pas trouver Toutankhamon, mais qui a-t-on trouvé finalement?
Non, on va pas trouver ni Toutankhamon ni d'autres momies égyptiennes. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, il n'y a pas de momies égyptiennes sous la colonne de la Bastille.
Il y avait des gens qui pensaient ça.
Oui, il y avait des gens qui pensaient ça. Mais alors dans les catacombes, les ossements sont complètement anonymes. On a déversé des tombereaux d'ossements. On a juste indiqué la provenance sur des plaques gravées, le cimetière d'origine. Mais il y a juste une pierre tombale qui est dans les catacombes et qui, elle, n'est pas associé aux ossements qui sont à proximité. Ouais. C'est la pierre tombale d'une dame Legros, Françoise Gelin, dite dame Legros, qui s'est battue toute sa vie pour faire évader la tute de prison. Quand on vidait les ossements dans les catacombes, on a gardé quelques tombes dont le texte pouvait être intéressant. D'accord. Et c'est la seule qui était descendue sous terre. Donc là, c'est une pierre tombale qui est sous terre, mais qui vient de la surface, et les ossements sont certainement quelque part dans les catacombes, mais on ne sait pas où. En revanche, il y a une tombe qui posait quelques soucis aux historiens, qui existe, qui est sous le, on va dire, à proximité du RER Luxembourg, donc dans les carrières qui sont encore en dessous ce RER, précisément sous la rue de l'Abbé de l'Épée. On a une tombe sur laquelle c'est écrit: à la mémoire de Philibert Asper, perdu dans cette carrière le 3 novembre 1793, retrouvé et inhumé en la même place le 30 avril 1804. Donc c'est tout ce qu'on avait sur lui. Ouais. On avait fouillé les archives, qu'elles soient nationales, municipales, militaires, parce que l'histoire voulait que Philibert Asper soit portier du Val-de-Grâce en 1793, et en 1793, au moment où il disparaît, le Val-de-Grâce est devenu militaire. Et là, Virginie Palier, qui a fouillé énormément dans des archives reconstituées parce que à Paris, il y a eu les incendies de la commune qui ont brûlé un certain nombre d'archives, dont effectivement des registres d'état civil. Et dans des registres reconstitués à partir de 1873, on a trouvé un acte de décès qui indique que en 1873, on évoque qu'on a trouvé un corps en 1804 qui est le corps d'un dénommé Philibert Asper. Que ce Philibert Asper avait 64 ans, on a maintenant le nom de ses parents, on sait qu'il avait un frère, on a plus de choses maintenant sur lui qu'on en avait avant le 21 janvier, la seule chose qu'on avait c'était la tombe. On n'avait aucun autre document sur ce personnage.
C'est un illustre inconnu, mais il est
illustre. C'est un illustre inconnu, ouais. Sauf qu'il est illustre parce qu'il y a plein de personnes qui s'intéressent aux carrières souterraines, qui connaissent cette histoire de Philibert Asper, et moi je vois régulièrement des journalistes qui me téléphonent mais du fin fond du bout du monde pour dire est-ce qu'on peut venir voir cette tombe, elle est quand même connue.
Incroyable. Il y a d'autres là on pourrait dire en brièvement, est-ce qu'il y a d'autres personnes célèbres ou qui fussent célèbres à un moment qui ont été justement enterrées dans les carrières?
Non, parce que c'est ça, c'est aussi le grand mystère de Philibert. Maintenant on a un autre mystère avec Philibert Asper, c'est que si on trouve des ossements à l'époque au 18e siècle, 19e siècle,
ouais.
S'ils sont anonymes, on les mettait aux catacombes. Si on a un corps trouvé sous terre, la logique veut qu'en plus, si on a une famille qui est toujours existante à l'époque, on va l'enterrer en surface. Alors pourquoi ce pauvre Philibert, on l'a enterré sur place, sous terre, à 20 mètres de profondeur? Sa veuve n'a même pas pu, j'imagine, venir se recueillir sur sa tombe régulièrement. Donc c'est le seul cas où un corps a été trouvé sous terre et a été inhumé en plus en la même place.
Très bien, maintenant parlons d'histoire, égout, carrière, catacombe, crypte. On n'a pas encore parlé de ce mot. Comme on est sur une antenne chrétienne, les gens connaissent bien ce mot. Alors on va pas parler des contes de la crypte, mais là des cryptes parisiennes. C'est d'abord les sous-sols de Paris, un livre d'histoire, on pourrait dire ça comme ça. Qu'est-ce que, justement, on oublie quand on regarde les sous-sols de Paris? Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Tout? Presque tout?
Alors, bon, on va juste évoquer les cryptes parisiennes, mais en fait, dans beaucoup de villes en France, quand on a une église ancienne, sous l'église, il y a une crypte, mais les cryptes, la surface est très limitée, elle est limitée au volume de l'église. Bon, il y a une crypte qui est particulière, qui est celle sous l'église Saint-Sulpice, parce que lorsqu'on est dans la crypte de l'église Saint-Sulpice, en fait, on est au niveau, je dirais, des fondations de l'ancienne église. Et on voit encore le puits qui était sur la place, on a une surface.
À voir, je crois que c'est visible, on peut les visiter.
On peut les visiter, il faut demander à l'église de Saint-Sulpice, c'est faisable. Et de temps en temps, il y a des visites historiques qui sont organisées.
Donc là, c'est un voyage dans le temps.
En tant que voyage dans le temps, ne serait-ce que descendre dans les carrières sous Paris, donc c'est ce que je disais, on peut pas visiter pratiquement autre chose que les catacombes. Mais dans la galerie qui permet d'accéder de l'entrée aux catacombes, donc à l'ossuaire, on a des inscriptions sur les murs qui datent du XVIIIe siècle, pour lesquelles malheureusement il n'y a pas trop d'explications qui sont données pour les visiteurs. Mais si on fait très attention, on retrouve en fait toute l'histoire à la fois de Paris et l'histoire française, l'histoire de la Révolution française, l'histoire de l'apparition du système métrique. On a tout ça qui est gravé, écrit sur les murs en descendant à 20 mètres de profondeur. C'est en fait une remontée de plus de 200 ans dans le temps.
Ouais. Alors il y a l'histoire aussi par rapport aux égouts, puisque alors on le sait parce qu'on a vu ça à la télé de temps en temps. Il y aurait donc en sous-sol les mêmes noms de rue pour le réseau d'égouts. Alors est-ce que ça c'est quelque chose qui fonctionne encore aujourd'hui? Quand on visite les égouts, c'est ce qu'on nous présente. Est-ce que tout le réseau d'égouts parisien est pareil? On a l'impression qu'on peut faire quand même, on véhicule des hommes entiers, c'est-à-dire que c'est quand même, c'est pas des petits réseaux. Alors, c'est comme on nous l'a présenté ou pas vraiment?
Non, les égouts, c'est tout à fait ça. Et en plus, excepté, je dirais, l'odeur et le fait qu'on est sous un ciel couvert, sous un toit, un plafond, on pourrait se croire éventuellement dans les rues de Paris parce que les plaques d'égouts sont écrite blanche en tôle émaillée, blanche sur fond bleu comme dans les rues de Paris.
Oui.
C'est la couleur standard de la ville de Paris. Les égouts appartiennent à la ville de Paris. Mais là, les égouts, eux, ils sont à, on va dire, 3 à 4 mètres de profondeur. Et effectivement, sous chaque rue, il y a le double, il y a son double sous le format d'égout. Ouais. Et les égouts, ça représente 2350 km.
Ouais.
Les carrières, ça représente moins de kilomètres, on va dire, ça représente à peine 300 km. Mais les carrières, ce sont des plaques de rue qui ont aussi été mises, mais au 18e siècle. Donc là, c'est plus intéressant parce que c'est la doublure topographique du Paris du XVIIIe siècle, avec des noms de rues qui ont pu changer
par rapport à la surface. Donc là, on a une grosse source historique pour le coup.
Là, c'est plus intéressant au niveau historique parce que c'est plus ancien et donc on va avoir des noms de rues qui ont changé, des noms de bâtiments qui n'existent plus parce que ils ont été détruits par la Révolution ou par les grandes percées haussmanniennes. On a donc des inscriptions qui datent du XVIIIe siècle qui ont été gravées par une administration qui existe toujours, qui est l'inspection des carrières, avec des dates qui sont, on va dire, de 1777 à 1909, et au moment où on interdit d'utiliser le calendrier traditionnel, où on passe au calendrier républicain, les dates sont gravées en calendrier républicain, ouais. De l'an 2R à l'an 14R.
Donc finalement, voilà, si on voulait reconstituer un Paris un petit peu de cette époque, ça permettrait de faire une reconstitution juste. Juste pour terminer sur les égouts, qu'est-ce qu'ils ont de si intéressant, à part le fait qu'en effet, ce sont des mini-rues sous les rues, ou de mini-tunnels sous nos rues qu'on connaît bien. Alors, prouesse technique là pour les égouts en général. C'est souvent de cela qu'on parle quand on parle des égouts parisiens.
Ben c'est une prouesse technique, et en plus, ce sont des égouts qui sont entièrement parcourables à pied. Et lorsque les égouts ont été créés, il a fallu créer tous les engins qui allaient permettre de curer, de nettoyer, oui. D'entretenir les égouts. Et à peu de choses près, ce sont strictement les mêmes engins, enfin je dirais avec la même mécanique, qui permettent de travailler encore dans les égouts, parce que bien sûr l'électronique est mal supportée, il a fallu tout inventer. Et dans ces égouts, parce qu'une chose que l'on peut trouver un peu particulière, mais qui est bien pensée, ben on a profité du fait que l'on crée un égout sous chacune des rues pour faire passer, donc l'égout permettait de récupérer les eaux usées des maisons, mais on a profité pour faire passer les canalisations d'eau potable pour aller alimenter chacun des immeubles avec l'eau potable.
Rassurez-vous, évidemment, tout ça
ne communique pas.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait, si, alors peut-être que Paris, évidemment, vous êtes spécialiste, mais est-ce que ce genre d'égout avec ce genre de plaques, est-ce qu'on les retrouve ailleurs? Est-ce qu'on peut dire à Londres, c'est pareil, par exemple, ou là, on peut encore se vanter d'être français?
Alors, je ne suis pas allé dans les égouts de Londres, j'ai des amis qui y sont allés, mais c'est quand même une particularité française d'avoir des égouts, en fait, à taille humaine, en plus. Parce que si vous allez à Sydney, si vous allez dans des grandes villes modernes qui ont été construites de rien...
Ce sont des tubes, finalement. Hein.
Non, mais c'est même plus que ça, ce sont des gros tubes, et je dirais ce qui s'appelle les explorateurs urbains qui viennent pour beaucoup d'Australie vont même jusqu'à faire du rafting dans les égouts de là-bas, parce que c'est à une échelle disproportionnée.
Très bien. Alors, vous l'avez dit, catacombes officielles, l'ossuaire, qu'on peut visiter encore à Denfert-Rochereau. Maintenant, parlons des catacombes interdites. Alors, évidemment, on appelle des cataphiles les gens qui aiment bien ce genre d'endroit. Alors, on se retrouve sous terre, dans des endroits où on n'a pas le droit d'aller, puisque la police a fermé plusieurs accès. Alors évidemment, on y va sans y aller. Hein. Bon, pourquoi c'est aussi dangereux? Est-ce que c'est une bonne idée que ça soit fermé? Est-ce qu'on devrait en rouvrir? Est-ce que justement, on devrait peut-être profiter? Parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup de carrières. Il y a peut-être des choses à faire avec tout ça, non?
Non, alors, c'est interdit effectivement d'y aller, mais c'est pas interdit parce que c'est dangereux. C'est très bizarre, mais personne le sait.
Ouais.
Même la police n'est pas trop au courant. C'est interdit parce qu'il y a un arrêté qui a été pris le 2 novembre 1955 qui interdit à toute personne de pénétrer et circuler dans les anciennes carrières souterraines de la ville de Paris sans autorisation.
Ouais.
Mais si ça a été interdit en 55, c'est parce que c'était la guerre d'Algérie. Et en fait, il y a une loi qui a été prise le 3 avril 1955 qui, en fait, c'était une loi, je dirais, sécuritaire qui imposait un couvre-feu, qui interdisait les rassemblements de plus d'un certain nombre de personnes.
D'accord.
Et l'article 5 de cette loi stipule que cette loi peut être mise en application localement. Et il y a effectivement le préfet de la Seine, préfet de police, qui s'est dit, mais si on interdit aux personnes de se réunir dans Paris en surface, mais simplement pour échanger des idées, pas pour faire autre chose, ils vont se réunir en dessous, on n'aura rien contre eux, puisque c'est pas interdit. Donc on a pris cette loi qui interdit uniquement au départ d'aller sous Paris à cause de cette guerre d'Algérie.
Bon, on était bien content de les avoir quand même, ces carrières, ces catacombes inofficielles, par exemple pendant la guerre, évidemment.
Ben, elles ont servi à plusieurs moments, et il faut savoir que quelles que soient les périodes troublées de l'histoire de France, que ce soit la Révolution française, donc 1789, la Terreur, 1791-92, ou même les communes, 1830-48, la guerre de 70, la commune de 71, les carrières, les travaux de consolidation des carrières n'ont jamais cessé. Et effectivement, pendant les guerres, on a de temps en temps envisagé d'utiliser ces carrières. Par exemple, pendant la guerre de 70, on a creusé de nouvelles galeries à partir des carrières pour rejoindre certains forts du Sud, en se disant ça permettra de réalimenter les forts si jamais il y a une rupture de on peut plus passer par les rues en surface. Et bien évidemment, quand les forts ont commencé à avoir des soucis, on s'est dépêché de reboucher ces galeries pour éviter qu'il y ait communication et que l'ennemi rentre à partir de ces forts dans Paris.
Donc là, on est dans du militaire finalement. Non. Ouais.
Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on a un peu utilisé les carrières souterraines pour circuler sans trop se faire voir des Allemands. Et il faut effectivement reconnaître que du 19 au 25 août 1944, l'insurrection de Paris a été dirigée à partir des sous-sols, mais à partir des carrières souterraines.
Ouais. Donc là, elles nous ont bien servi à cette époque-là. En tout cas, elles ont bien servi aux Parisiens et peut-être à toute la France. Alors aujourd'hui, c'est interdit. Voilà, si vous êtes cataphile, ça veut dire que vous allez vous balader dans ce genre d'endroit. Bonne idée d'y aller quand même. Je peux confesser, j'y suis allé une fois. C'est quand même un petit peu impressionnant. Vous rentrez par un tout petit trou, vous faites un certain nombre de mètres ou de kilomètres, je sais plus combien j'ai parcouru. Et vous êtes, vous savez pas du tout où vous êtes. Vous arrivez dans une pièce. Il y a rien d'autre que des gens comme vous. Et vous savez que si on vous laisse là, vous êtes un petit peu dans le pétrin. Alors quel intérêt d'aller se balader à travers ce genre de choses, sachant que vous l'avez dit, il y a des endroits où on peut très bien aller voir des choses très historiques. Là, on va pas trouver un trésor en parcourant les catacombes dans lesquelles on n'a pas le droit d'aller. Hein.
Non, les seuls trésors que l'on peut y trouver sont des trésors historiques, mais malheureusement, beaucoup de personnes considèrent que c'est un terrain vague, ignorent même un terrain de jeu, ignorent même que ça appartient à la ville de Paris, que éventuellement ils savent plus ou moins que c'est interdit d'y aller, mais ils y vont parce qu'ils se donnent un challenge en disant on va pouvoir aller dans les carrières. Et malheureusement, comme ils considèrent que c'est un terrain de jeu, ils vont pas faire attention à la fois aux inscriptions historiques, à tout ce qui peut être intéressant historiquement ou géologiquement qu'on peut voir dans les carrières. Donc ils le voient pas, et en plus souvent ils le dégradent parce qu'ils vont descendre avec des bombes de peinture, ils vont taguer partout.
Donc c'est plutôt quelque chose qui est pas très positif pour les sous-sols de Paris, tout ça.
Ben c'est pas très positif, et ces dernières années les sous-sols ont plus souffert, je dirais, les sous-sols carrières ont toujours été fréquentés clandestinement depuis 1777. C'est-à-dire que dans les archives, on retrouve des traces de personnes qui sont descendues clandestinement en 1777, où on trouve par exemple une lettre d'un dénommé Dupont qui dit « Nous avons des individus qui descendent les nuits et les jours de fête dans nos carrières. J'ai les noms de quelques-uns d'entre eux et le domicile de l'un d'eux. » Donc les personnes y vont, mais quand on retrouve effectivement les traces de ces personnes, c'est des petits écrits au crayon, c'est des choses qui ont un intérêt éventuellement historique. Maintenant, c'est plutôt de la dégradation.
Donc finalement, pas tellement d'intérêt, c'est juste la sensation d'interdit.
La plupart des personnes, c'est ça.
Alors, pour le coup, on a vu qu'il n'y avait pas trop de gens célèbres. Très bien, attention de peut-être pas vous en aventurer là-dedans, parce qu'en effet, si en plus vous ne savez pas où vous êtes, pour ressortir, ça va être un gros bazar.
Et là, il y a peu de chances que quand vous créez une tombe, comme ça a été fait pour Philippe Berasper, vous risquez une amende, et c'est parce que vous êtes en infraction avec la loi.
Alors évidemment, il y a eu des accidents, il y a déjà eu des morts malheureusement.
En carrière, non, il y a eu des accidents. Il y a eu des accidents, une personne par exemple qui est tombée d'un puits à échelons, qui est devenue tétraplégique, il y a eu des choses comme ça. Mais non, il y a eu un mort qui a été trouvé dans les années 80, mais là c'est une histoire criminelle en surface, où la personne qui a été tuée en surface a été cachée dans les carrières, mais a été retrouvée, on a retrouvé le cadavre dans les carrières. Ouais. Non, il y a eu des accidents.
Est-ce qu'il y a quand même des gens qui se baladent au cas où, on entend des histoires où les gens se sont perdus et heureusement ont été retrouvés. Il y a quand même des gens qui vont aller.
Il y a un service de police et les pompiers sont aussi formés à patrouiller dans les carrières pour la police pour interpeller les personnes qui y vont sans autorisation. De toute façon, il n'y a pas d'autorisation qui sont données. Et les pompiers pour intervenir, pour aller rechercher une personne qui pourrait s'y être perdue ou s'y être blessée. Ouais. Parce qu'on imagine que lorsqu'on est blessé en surface, il y a toujours quelqu'un près de qui on va pouvoir demander de l'assistance. Si on est sous terre, il faut un service spécialisé pour aller vous chercher. Et si vous ne pouvez plus bouger, il faut vraiment être formé pour ça.
Pour se donner un petit peu le vertige, il y a combien de kilomètres de galeries en termes de carrière sous Paris?
Bon, on estime, un peu moins de 300 km de galeries de carrière, mais on a 2350 km d'égout, on a 120 km de galeries EDF, on a 50 km de galeries France Télécom, on a plus de 400 km de galeries pour le chauffage urbain, on a un peu moins de 40 km, mais ça croît d'année en année, de galeries pour la climatisation. Ouais. On a 200 km de tunnels de métro, sans compter les 200 km de couloirs de correspondance pour les piétons qui sont dans le métro.
C'est vrai. Donc il y a de quoi se perdre, rien que les 300 km de galerie en carrière, bon courage. On se retrouve dans un instant, vous restez avec nous, Gilles Thomas. Ce livre, un Atlas du Paris souterrain, aux éditions Parigram. Si le sujet vous intéresse, il y aura plein de choses auxquelles vous pourrez que vous pourrez découvrir. Et on a été un petit peu dans l'obscurité avec des histoires d'os, des histoires de catacombes dans lesquelles il ne faut pas aller. On va essayer d'aller du côté de la lumière dans un instant, vous restez avec nous. Les sous-sols de Paris. Mon invité Gilles Thomas, merci d'être avec nous. Ce livre, Atlas du Paris souterrain, aux éditions Parigram. À la fin de l'émission, si vous êtes super flippé des histoires de souterrain, deux petits bouquins pour le Paris secret, là pour le coup au-dessus. Je vous en parlerai dans un instant. Alors, on a parlé du côté historique, les égouts, les catacombes, l'ossuaire, un petit peu des cryptes. Très bien. Alors là, on va faire un peu le panel. On va essayer de mettre de la lumière là où normalement il n'y en a pas. Avant de vous parler du métro, les plus beaux endroits des sous-sols de Paris, les choses les plus incroyables que vous êtes le seul à avoir vu, évidemment, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui vous échappe sous les sous-sols. Parce que nous, le grand public, on peut pas vraiment y aller, quoi. Alors donnez-nous envie et on ne fera que rêver, finalement.
Non, mais je suis pas le seul à avoir vu, je vais pas dire heureusement, mais je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui les ont vues. C'est par exemple, il y a quelques réservoirs d'eau dans Paris, des réservoirs d'eau potable et des réservoirs d'eau non potable. Bon, on va se débarrasser, quand je dis on, la ville de Paris va se débarrasser des réservoirs d'eau non potable puisqu'elle veut avoir affaire qu'à une seule distribution pour éviter les ennuis. Mais dans l'alimentation en eau potable, il y a un réservoir qui est quand même assez exceptionnel à voir, qui est le réservoir Montsouris, qui est au carrefour. Quand on le voit de dessus, on a l'impression d'un terrain de foot et on se dit mais il n'y a jamais de joueurs dessus. Ben, le terrain de foot, c'est juste en fait une couche de terre pour maintenir l'eau à certaines températures. Et donc ce réservoir était à l'angle de l'avenue Reille et de l'avenue de la Tombissoire, donc dans le 14e arrondissement. C'est un réservoir d'eau potable de 300 000 mètres cubes, donc 300 000 tonnes d'eau potable. En fait, il est constitué de deux réservoirs superposés, et chaque réservoir est séparé en deux. Comme ça permet, quand on entretient une des parties, d'avoir toujours de l'eau, de pas rompre l'alimentation en eau d'un quartier de Paris. Mais ce réservoir n'est pas très élevé, contrairement à Montmartre, où effectivement on est en haut d'une butte, contrairement à celui qui apporte des lilas, par exemple. Et ce réservoir, donc, alimente en eau les quartiers bas de Paris qui vont être le Marais et qui vont être un peu le 14e, un peu le 13e arrondissement. Mais quand on est dedans, on a une eau d'une, enfin, quand on est du nord, quand on est à l'intérieur, heureusement, il y a un chemin de ronde qui a été construit autour.
Et je crois qu'on peut même y aller en bateau. C'était pour la photo.
Non, c'est en fait, il y a dans les réservoirs de temps en temps, il y a effectivement des désinfections qui ont lieu, surtout quand il y a eu des travaux. Ouais. Donc, il pouvait y avoir des prélèvements qui avaient lieu en barque, mais la barque elle-même était désinfectée pour être sûr de pas contaminer.
Alors, vous pour s'imaginer si vous avez jamais vu ces photos, alors évidemment, dans le livre Atlas du Paris souterrain, vous aurez quelques photos. Mais voilà, ce sont des grandes arches, une eau limpide. Enfin. On est dans c'est un monde merveilleux.
Mais c'est une eau turquoise, une eau qui est fabuleuse. On voit un escalier qui descend dans cette eau et on voit jusqu'à la dernière marche. C'est bien sûr c'est de l'eau potable, c'est l'eau qui coule à votre robinet. Quand ce réservoir a été construit, donc de part et d'autre de la guerre de 1870, la construction a été interrompue par cette guerre. On a construit un chemin de ronde à l'intérieur du réservoir inférieur pour montrer au public et pour montrer en fait aux ingénieurs étrangers le savoir-faire français. Ouais. Donc c'était un réservoir qui au départ était prévu pour la visite et maintenant sous prétexte de vigipirate, le réservoir n'est plus malheureusement plus visitable.
Peut-être il le sera.
Mais peut-être, c'est ce qu'on espère, d'autant plus que l'alimentation en eau a été à nouveau remunicipalisée. Donc
Alors, je sais pas, on pourrait même imaginer de faire pas là-dedans, mais une piscine pour les gens, ça serait fantastique. Les gens seraient complètement en folie là-dedans. Bon, évidemment là pour l'instant c'est de l'eau potable. Alors c'est vrai que pas maintenant. Faut demander une autorisation peut-être pour aller voir là-bas si vraiment il y a les grands
fermes. Et même les journalistes n'arrivent pas à avoir d'autorisation. En ce moment, c'est un block-out pour
il faudra donc attendre. Quoi d'autre d'incroyable? J'ai entendu parler d'une fontaine justement devant un hôpital. Alors en effet, je crois que c'est Cochin.
Une fontaine dans notre c'est une fontaine, donc c'est sous l'hôpital Cochin, mais c'est une fontaine particulière. En fait, c'est un puits à eau, mais c'est un puits à eau particulier parce que sous Paris, on rencontre des puits à eau pour lesquels il y a une ouverture à partir de la surface, donc ça veut dire qu'il sert à la fois pour puiser de l'eau en surface, puisque maintenant on utilise quand même plus beaucoup l'eau des puits, éventuellement pour arroser son jardin quand on est chanceux à Paris.
C'est vrai.
Mais on a des puits à eau dans Paris qui n'ont pas d'accès en surface, qui servaient uniquement à l'inspection des carrières pour faire les travaux, puisque si on fait du mortier ou du ciment, on a besoin d'eau. Et là, ce puits qui est sous l'hôpital Cochin a été classé monument historique, a été classé en 1991, parce qu'il a une architecture particulière, parce que il a une histoire qui est liée à l'histoire des carrières de Paris, et à proximité, à 50 mètres de là, on a retrouvé le dessin grandeur nature, donc à l'échelle 1, de cette fontaine qui a été aménagée.
D'accord.
Et donc l'ensemble a été classé, enfin le puits et l'échelle d'Étia, enfin le dessin, l'épure, a été classé monument historique.
Et on
peut le voir si on demande à l'association qui gère les carrières sous l'hôpital Cochin.
Très bien, alors quoi d'autre d'insolite, d'incroyable, d'inattendu sous les sous-sols de nos rues?
Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'inattendu? Non, il y a des choses dans lesquelles on circule on passe en circulant tous les jours, éventuellement en prenant le métro. Ça va être des stations fermées, des stations qui ont été fermées pendant la guerre parce que pour des raisons d'économie, le trafic du métro, il y avait moins de personnes pour faire fonctionner le métro. Et en plus, on a fermé un certain nombre de stations, ce qui faisait des économies d'électricité.
Alors pour les Parisiens qui nous écouteraient ce matin, il y a en effet plusieurs, moi j'en pense, il y a une station de métro qui me vient en tête, sur la ligne 10, entre Odéon, je crois, et je ne sais plus quelle station, voilà.
La station Croix-Rouge.
Ah, c'est la station
Croix-Rouge.
Bon, ben, on se dit, mais il y a des agents secrets qui se cachent derrière ces murs. Que se passe-t-il?
Non, donc cette ancienne station Croix-Rouge, comme il y avait 5 stations qui n'ont pas été réouvertes à la fin de la guerre pour différentes raisons, qui étaient Croix-Rouge, Arsenal, Champ-de-Mars, Cluny et Saint-Martin.
À Champ-de-Mars, c'est le désinfecté qui est devant l'école militaire, en fait.
Oui, oui. Et donc Saint-Martin, c'était une grande station parce qu'elle est sous les grands boulevards et en plus c'est une station avec qui correspond à la ligne 8 et la ligne 9. Donc Saint-Martin a été un tout petit peu réouvert lorsqu'il y a eu un hiver assez froid il y a quelques années, mais on s'est aperçu qu'on pouvait pas héberger des sans domicile fixe comme des animaux. C'était effectivement le cas. C'était, si on met 20 personnes, il faut que chacun ait son espace de liberté. Donc Saint-Martin maintenant n'est plus utilisé pour cette fonction-là. La station Cluny a été réouverte au moment où on a créé l'interconnexion entre le RER B qui passe maintenant sous la Seine et la ligne 10, toujours, sachant que le RER s'est arrêté jusqu'en 1977 à Luxembourg. C'était son terminus. On a été capable de passer sous la Seine qu'à partir de 1977.
Ah oui.
Donc, et Cluny, jusqu'à cette période-là, a été abandonné. Mais on a aussi des stations qui sont pas des stations fermées, qui sont des stations jamais ouvertes. Il y a une station du côté de Porte des Lilas qui n'a jamais été ouverte au public, que l'on appellerait Axo éventuellement parce que elle est à proximité de la rue Axo. Où on a une station du côté du stade Jean Bouin qui avait été prévu d'ouvrir et de qui aurait servi à pour que des utilisateurs descendent du métro les jours de match au stade, mais en fait c'est la ville de Paris qui construisait les grosses infrastructures, donc on va dire les tunnels, qui installait les quais, elle concédait après aux futurs exploitants, donc l'ancêtre de la RATP. Et l'ancêtre de la RATP n'a pas été d'accord pour ces deux emplacements-là, donc n'a jamais fait d'accès
donc
à ces deux stations.
C'est de la place perdue, finalement.
Et là, non seulement il n'y a pas eu d'accès à ces deux stations-là, mais c'est des stations où le métro ne passe même pas. C'est-à-dire que Saint-Martin, Croix-Rouge, Arsenal, vous passez à travers, lorsque vous avez pris votre ticket de métro, c'est entre deux stations qui sont desservies, alors que ces deux stations qui n'ont jamais été ouvertes sont dans des fins de ligne et le métro n'y va jamais.
Alors, on n'a pas parlé des secrets. Alors évidemment, je ne sais pas jusqu'où vous pourriez aller, mais on voit que dans certains films, la DGSE, alors je crois que ça a été renommé, mais voilà, il se passe des choses en sous-sol à Paris. Oui, non, peut-être, évidemment.
Non, non, peut-être, sûrement. Parce que non, il y a, je veux pas dire qu'il y a rien de caché pour la police. Ça, c'est dans le film des Gaspard qu'on entend ça. Mais non, le sous-sol de Paris étant parfaitement connu et étant par chaque secteur, chaque réseau indépendant étant parcouru par des techniciens qui est en charge du réseau, s'aperçoit tout de suite s'il y a quelque chose qui est en cours de préparation. Et on peut pas préparer, on va dire, d'attentats à partir des sous-sols. On peut pas.
Donc les réseaux secrets pour le gouvernement resteront secrets. C'est déjà pas si mal. Le point le plus bas. Alors on peut peut-être penser au RER, à la ligne 14. Voilà. Maintenant, quand on ouvre des stations de métro ou des stations de RER, on descend de plus en plus. Si on veut être dans le centre de la terre parisien, où doit-on aller?
Faut prendre effectivement Météor ou Éole, qui sont des stations qui ont été creusées, enfin qui sont des lignes qui ont été creusées à grande profondeur, qui sont donc les dernières lignes du métro. Mais Météor, c'est la ligne 14, et les lignes ont le numéro qui correspond à l'ordre d'ouverture. La première ligne ouverte, c'est la ligne 1, etc. Donc Météor, c'est la dernière. Et lorsqu'on a voulu créer ces nouvelles lignes, le sous-sol était déjà tellement encombré de vide que l'on n'a pas pu s'amuser à redéplacer des réseaux techniques pour faire passer ces nouvelles lignes. D'autant plus que maintenant, on sait parfaitement creuser avec des tunneliers. Et donc, le tunnelier, c'est quelque chose, une fois qu'on l'a fait descendre à la profondeur qu'on veut, lui, il creuse en ligne droite, il va faire des courbes plus ou moins grandes. Et c'est la différence entre Éole et Météor et le reste du métro, c'est que le métro a été construit dans les rues, sous les rues, et donc c'est pour ça qu'ils disent...
On a ouvert les rues et on les a finalement recouvertes.
C'est ça, on a ouvert les rues, on les a recouvertes, et c'est pour ça que la plupart du temps, le métro, on va dire l'extrado, c'est-à-dire la partie supérieure de la voûte, est à 70 cm sous la chaussée, parce qu'on a creusé à ciel ouvert, sauf il y a des stations profondes qui vont être à Abès, Bozaris, parce qu'à l'époque, on aurait pu creuser à ciel ouvert, mais on aurait eu un problème pour faire monter les pentes au métro. Donc là, on a creusé avec une pente beaucoup plus faible, et c'est pour ça qu'on a des grandes volées d'escaliers dans ces stations rive droite de Paris. Ouais. Et donc, le métro, lui, zigzag. Quand on est à Saint-Paul, on a les zigzags de la rue. Alors que Éole, on l'a creusé, Météor, on les a creusés à grande profondeur, on est à 30 mètres de profondeur, alors qu'avant le creusement de ces lignes, c'était les carrières qui étaient le réseau le plus profond des réseaux de Paris.
Bon, en tout cas, on est bien profond sous le sol parisien. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir encore plein de trucs de fait, la ligne 15 justement, où on va descendre encore plus, 150 mètres, où il y a un moment où il va peut-être falloir s'arrêter? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire sous le sous-sol parisien?
Non, mais
dans le sous-sol parisien plutôt.
Il y a eu des projets de de galeries commerciales, un peu comme ce qui se passe à Montréal, mais bon, ça c'est des grands projets, je dirais utopiques, qui ont été développés, mais qui sont pas forcément des projets récents, qui ont été développés dès l'avant Seconde Guerre mondiale.
On aurait pu voir ça où, des galeries commerciales souterraines.
On les aurait fait à grande profondeur. On a envisagé de faire ça, par exemple, sous l'île de la Cité. Sous l'île de la Cité,
dans des zones 200 mètres en dessous de l'île de la Cité.
Non, mais de faire 5-6 étages souterrains c'était un grand projet d'urbanisme où on aurait rasé en fait toutes les vieilles rues de l'île de la Cité. C'était le plan voisin. On aurait fait des grands immeubles avec effectivement toutes les zones commerciales en dessous.
C'était effectivement
pas une si bonne idée que ça, parce qu'il faut penser aux personnes qui vont travailler et vivre à assez grande profondeur sans voir la lumière du jour.
Ouais. Donc les projets, on peut imaginer qu'il y a encore des lignes de métro qui vont s'ouvrir
Maintenant, les nouvelles lignes de métro qu'on envisage, c'est plutôt des circulaires autour de Paris.
Ouais.
Parce que Paris est assez, l'intérieur de Paris, bon, il y a peut-être quelques zones où le maillage est pas aussi fin qu'ailleurs, mais c'est maintenant pour essayer d'alimenter, de permettre le passage de banlieue à banlieue sans que les utilisateurs repassent par Paris.
Alors, on a fait quand même le tour de beaucoup de choses. Encore une fois, hein, ce livre, Atlas du Paris souterrain. Alors, il est sous-titré La doublure sombre de la ville lumière. Quel beau sous-titre. Donc, Alain Clément, malheureusement, décédé, et vous, Gilles Thomas, aux éditions Parigramme. Alors, le livre est truffé de choses, hein. Allez l'acheter, comme ça, vous allez pouvoir découvrir ce que vous ne pourrez pas découvrir en plus, hein, parce qu'il y a que deux choses qui sont ouvertes au public, hein, rappelons-le, les égouts et l'ossuaire. Alors, juste quand même, le petit truc, Ratatouille, alors on a tous l'espèce de miracle américain. Les Américains viennent à Paris, vont parler d'un petit rat cuistot, ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé?
Non, en fait, l'idée du tournage, enfin l'idée qu'avait eu l'équipe de Pixar quand ils ont voulu faire Ratatouille, ils avaient juste l'idée d'un ou plusieurs petits rats qui allaient passer de gros restaurants, de grands hôtels en restaurants, de grands hôtels par les sous-sols de Paris.
Parce qu'ils étaient tombés aussi
sur cet atlas, ça aurait pu être possible. Donc ils sont venus 3-4 ans avant, ils ont fait plein de photos dans le sous-sol pour après numériser ces photos, faire les décors, et au bout de 2-3 ans, comme le scénario n'avançait pas, ils ont un peu changé leur projet, et c'est devenu un rat, qui rentre dans Paris par les sous-sols, et une fois qu'il est dans le restaurant, il reste dans le restaurant.
Alors, ça permettra de conclure mission avant la dernière question. Deux bouquins, alors là c'est pour les gens qui seraient peut-être un peu claustrophobes et qui voudraient plutôt rester juste en surface. Alors, une de vos amies, Dominique Lesbros, Paris mystérieux et insolite, alors aux éditions de Boré, et un autre livre, Paris secret et insolite, Rodolphe Trouilleux, aux éditions Parigramme. Alors voilà, l'ultime question de cette émission, encore une fois merci d'avoir été avec nous toute cette heure, cette matinée. On va justement essayer de rejoindre le soleil après être plongé dans les sous-sols. Je vous rentrais, je ne sais pas où dans Paris, je vous avais dit tout à l'heure devant Notre-Dame, mais a priori ça va pas être très possible. Si je veux me barrer en vacances, jusqu'où je peux aller par les sous-sols? Je ne reste que dans les sous-sols.
Que dans les sous-sols. Si vous prenez les égouts, vous allez pouvoir vous parcourir là, vraiment tout Paris. Mais si vous rentrez dans le réseau de carrière, je dirais, du côté du réseau principal qui est un réseau qui est rive gauche, vous rentrez du côté du jardin du Luxembourg, vous pouvez aller jusqu'à Bagneux, Montrouge, Arcueil, sans voir le soleil.
Très bien. Eh bien, je sais pas si je partirai en vacances à Arcueil ni à Bagneux. Bon, en tout cas, merci pour cette émission. Gilles Thomas, Atlas du sous-sol, du Paris souterrain. Dites donc, j'ai du mal. Atlas du Paris souterrain, aux éditions Parigramme. Merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain. Là, on sera à la lumière. Hein.
Merci.
À demain.